qu'il soit riche ou pauvre, impie ou dise croire en Dieu, la quasi-totalité des êtres humains sont attachés à leur sou. Cependant, il existe quelques personnes désintéressées, et c'est avec l'éloge de l'une d'entre elles que se termine le chapitre 12 de l'Évangile selon Marc. Après avoir donné un enseignement dans la cour des non-juifs à l'intérieur de l'enceinte du temple, Jésus se rend dans le parvis des femmes et s'assoit en face de 13 récipients en forme de trompette qui servent à la collecte des offrandes. Je continue à lire. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes, quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait besoin pour vivre. Une veuve met dans la cagnotte l'équivalent de 1/64 du salaire journalier d'un ouvrier agricole, soit 3 fois rien. Pourtant, par rapport aux riches, elle a donné une fortune. En offrant à Dieu tout ce qu'elle possède, elle s'en remet entièrement à lui pour subvenir à ses besoins. Jésus se sert de cet incident pour enseigner à ses disciples la comptabilité façon royaume de Dieu. Nous arrivons maintenant au chapitre 13 qui relate le discours de Jésus sur le mont des Oliviers et qui est l'enseignement du Seigneur le plus long rapporté par Marc. En fait, c'est une prophétie qui concerne les événements dramatiques de la fin des temps, mais sous une forme abrégée par rapport à ce qu'on trouve dans les évangiles selon Matthieu et Luc. Ce discours sert de transition entre les controverses avec les autorités religieuses et le récit de son arrestation et de la crucifixion. Je commence à lire le chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Ce temple était une restauration complète de celui qui avait construit Zorobabel. C'est le roi Hérode le Grand qui avait pris cette initiative afin de gagner la faveur des Juifs et créer un monument durable à sa gloire. Construit en gros blocs de pierre taillés, blanches, polis et richement ornés, ce temple était renommé par sa beauté dans tout l'Empire romain. Nos grandes villes aussi ont composé d'immenses bâtiments et à première vue, il semble qu'ils peuvent défier le temps. Cependant, la destruction des 2 tours du World Center en septembre 2001 nous a rappelé que toutes les réalisations humaines sont bien éphémères et que selon les prophéties bibliques, un jour, elles seront réduites en cendres. L'histoire a prouvé que la grandeur ne dure qu'un temps puis disparaît comme une vapeur. Dans le livre du prophète Daniel, on lit qu'alors que le grand roi Nabucodonosor se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là Babylone la grande, que moi j'ai bâti pour en faire une résidence royale. C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Aujourd'hui, les ruines de cette ville s'étendent sur près de 1000 hectares. Je continue le texte de Marc. Jésus lui répondit, « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. » La remarque du disciple sur la beauté du temple est l'occasion pour Jésus de construire un discours sur une scène prophétique qui comprend 2 événements qui se télescopent. Le premier est relativement proche, puisqu'il décrit la destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Le second est beaucoup plus lointain, car il s'agit du retour de Jésus sur les nuées quand il reviendra pour régner sur cette terre avec puissance et une grande gloire. La ruine de la ville sainte est la catastrophe annonciatrice du cataclysme universel de la fin des temps. Cette double prophétie de Jésus suit un modèle bien rodé de l'Ancien Testament. En effet, souvent, les prophètes prédisaient un événement rapproché que certains de leurs auditeurs verraient s'accomplir, mais qui était en même temps un signe avant-coureur d'un événement beaucoup plus lointain. Le discours de Jésus montre donc qu'il y aurait une période de temps indéterminée entre la destruction de Jérusalem et sa seconde venue. Sa sinistre prédiction contre le temple et un jugement de Dieu sur son mauvais usage ainsi que sur Israël rebelle. Les Babyloniens avaient déjà rasé Jérusalem une première fois au VIe siècle avant Jésus-Christ. Je continue. Puis il, Jésus, alla s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtront que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ?» Les disciples pensent, bien à tort, que la destruction de la ville sainte coïncide avec la fin des temps et qu'elle inaugurera le royaume messianique. Jésus va d'abord indiquer les signes avant-coureurs de ces événements, puis, par une parabole, il leur dira quand ils auront lieu. Je continue. Là-dessus, Jésus leur dit « Faites attention que personne ne vous enduise en erreur. » À partir d'ici et jusqu'à la fin du chapitre, on a 19 verbes à l'impératif. Et dans chaque cas, ils font écho à une directive que Jésus donne à ses disciples. L'enseignement de Jésus est essentiellement constitué d'une part de mise en garde contre les erreurs sur l'identité du Messie et d'autre part d'exhortation à la vigilance et à l'obéissance tout le temps qui précédera son retour. Pendant cette période intermédiaire, l'Église s'étendra sur toute la terre, mais elle sera persécutée et le monde subira de graves crises sociales et politiques. Le verbe « faites attention » revient 4 fois dans le discours de Jésus. C'est ainsi qu'il exhortait ses disciples à demeurer loyaux envers Dieu et à maintenir une foi inébranlable en lui tout au long de leur vie. Je continue. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Jésus avertit ses disciples contre les imposteurs, les faux messies. Aujourd'hui encore, on trouve beaucoup de messages discordants émanant d'églises dites chrétiennes. Toutes prônent le vrai Christ pour attirer du monde. Cette grande confusion a le diable pour stratège. Je continue. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas tromper, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre, et il y aura, en divers lieux, des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Après avoir averti ses disciples contre les faux Christs, Jésus les met en garde contre une mauvaise lecture des désastres naturels qui sont la conséquence de la malédiction qui pèse sur l'humanité depuis la désobéissance de nos premiers parents. Aujourd'hui, nous avons la pollution, le réchauffement planétaire, le tiers-monde qui meurt de faim et d'autres catastrophes. L'insistance de Jésus, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement, suggère qu'une longue période d'histoire humaine précédera la fin des temps. Chaque génération aura ses propres guerres et désastres naturels. Je continue. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs. On vous fouettera dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Comme l'atteste de l'histoire de l'Église, les persécutions viendront à la fois des Juifs et des païens. Mais ces exactions peuvent aussi devenir une occasion pour les croyants de témoigner au cours de leur défense. La bonne nouvelle est celle que Jésus annonçait, et c'est toujours la même aujourd'hui. Elle consiste à changer d'opinion sur soi, sur Dieu, et à prendre Jésus-Christ comme son maître. Je continue. Quand vous amènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Il est intéressant de noter que le Seigneur n'a pas dit « si on vous arrête », mais bien « quand on vous arrêtera ». Il est donc certain que tôt ou tard, les disciples de Jésus-Christ seront persécutés. La promesse du Christ est que, malgré leur crainte naturelle, les croyants diront avec courage les paroles appropriées au bon moment parce qu'ils seront assistés par le Saint-Esprit. Cependant, cette aide surnaturelle ne veut pas dire qu'ils seront épargnés. Je continue. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Les persécutions proviendront non seulement des voies officielles, politiques et religieuses, mais aussi des relations personnelles intimes. Elles seront si sévères que les membres d'une même famille se trahiront les uns les autres et l'antisémitisme sévira à l'échelle mondiale. Jésus précise que celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. En effet, si la persévérance ne crée pas la foi, elle en est une conséquence et une preuve de sa sincérité. Une personne qui appartient véritablement à Jésus-Christ tient bon jusqu'au bout. Il conserve sa foi en Jésus-Christ parce qu'il bénéficie du soutien du Saint-Esprit. Ces paroles de Jésus étaient très pertinentes pour les lecteurs romains de Marc, sur qui planait sans cesse le spectre des persécutions à cause de leur loyauté sans partage pour le Seigneur. Les souffrances sont plus facilement supportables quand on sait quelles sont la volonté de Dieu et à sa gloire. Je continue. Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. La formule « que celui qui l'y comprenne » invite les lecteurs à interpréter correctement les signes des temps. La destruction de Jérusalem qui aura lieu en l'an 70 est rattachée aux événements de la fin des temps. La mention de l'abominable profanation sert de lien entre les deux périodes. Cette expression fait allusion à une pratique idolâtre si odieuse qu'elle causera la désolation du temple et son abandon. Une telle circonstance s'était déjà produite en l'an 168, lorsqu'un souverain syrien, Antiochus IV Épiphane, fit ériger un autel au dieu grec Zeus au-dessus de l'autel des sacrifices à l'entrée du temple de Jérusalem et fit immoler un cochon en 168 avant Jésus-Christ. Jésus enseigne que chaque fois que ses disciples entendront parler d'une telle abomination, ils devront fuir aussi vite et loin que possible. C'est ce qui arriva à l'an 68 de notre ère, et tous les chrétiens qui vivaient à Jérusalem quittèrent la ville et échappèrent ainsi au massacre qui suivit. Une telle profanation aura à nouveau lieu juste à la fin des temps. Elle sera exécutée par un homme que les Écritures appellent l'Antichrist. Je continue le texte. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelque bien qui s'y trouve, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur, en ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de détresse comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde, et comme jamais plus on en verra de semblables. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis pour qu'il soit à lui, il abrégera ce temps de calamité. Quand cette crise éclatera, la fuite sera plus difficile pour les femmes avec un enfant et aussi, si c'est l'hiver à cause des pluies et des rivières en crue. Mais Dieu interviendra et mettra fin à cette détresse terrible afin de préserver ceux qui lui appartiennent. Je continue. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Si au milieu de ces jours d'intense affliction et de combat, quelqu'un faisant des prodiges prétend alors qu'il est le Christ, c'est un imposteur et une tromperie de l'ennemi qui essaye de faire sortir les croyants de leur cachette, mais ils ne s'y laisseront pas prendre. Je continue. Cependant, en ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Le retour du véritable Messie sera immédiatement précédé par une variété de désordres cosmiques observables dans l'univers physique. Le soleil, la lune et les étoiles seront gravement perturbés. Ce chamboulement sont décrits dans l'Ancien Testament par Ésaïe qui écrit « Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller, le soleil sera obscurci dès son lever. Il n'y aura plus de clarté répandue par la lune. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leur injustice. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. » Je continue le texte. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Ce sera le retour visible sur terre de la personne de Jésus en tant que Fils de l'homme glorifié. Tous les croyants qui ont perdu la vie durant les jours de détresse précédents ressusciteront et seront rassemblés avec ceux qui sont encore vivants. Ainsi se termine la prophétie concernant la fin des temps. Nous arrivons maintenant à une parabole dans laquelle Jésus va utiliser les caractéristiques très particulières du figuier pour répondre à la première question des disciples qui est « Quand cela se produira-t-il » Le Seigneur va les exhorter à considérer comment le figuier se développe, car, contrairement à la plupart des autres arbres de Palestine, il perd ses feuilles en hiver et fleurit tard au printemps. Je commence à lire la parabole. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, Quand vous verrez se produire ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. » Chaque fois que les branches hivernales, raides et sèches du figuier deviennent tendres, amollies par la sève qui monte, et que les feuilles commencent à pousser, c'est que l'hiver est fini. De même, quand les événements décrits précédemment auront lieu, alors l'abominable profanation sera sur le point de se produire, et elle sera suivie des calamités énoncées, puis du retour en puissance du Fils de l'homme. Je continue. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour, ou alors, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Cette génération-ci concerne tout d'abord les Juifs qui vivent à l'époque de Jésus et qui assisteront à la destruction de Jérusalem. En second lieu, elle concerne tous ceux qui verront la détresse de la tribulation précédemment décrite. Les paroles solennelles, vraiment, je vous assure, affirme la véracité des prédictions de Jésus. Par contre, il ne sait pas lui-même le moment exact quand les événements de la fin des temps auront lieu. Elles font partie de cette période que l'Ancien Testament appelle le jour du Seigneur. En devenant homme dans un corps et un cerveau comme vous et moi, Jésus était très limité par rapport à ce qu'il est en tant que seconde personne de la Trinité. Il ne possédait plus l'omniscience, il ne pouvait pas être partout à la fois et possédait une connaissance limitée. Par contre, il était encore le Tout-Puissant et pouvait faire des miracles, surtout qu'il dépendait totalement de son Père pour toutes ses actions. Finalement, et une nouvelle fois, Jésus ordonne à ses disciples d'être prêts à tout moment pour la fin des temps et son retour en gloire. Je continue. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Serait-ce le soir, à minuit, au chant du coq, ou le matin? Qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous. Tenez-vous en éveil. Jésus martèle son enseignement en le rythmant sur chacune des veilles de la nuit. Les Juifs la divisaient en trois, mais le Seigneur la divise en quatre, comme les Romains, ceux qui s'accordent avec la perspective des lecteurs païens de Marc. Comme Jésus parle des événements de la fin des temps, il mentionne la fin à quatre veilles. Le soir était entre 18 et 21 heures. La nuit allait de 21 heures à minuit. Le chant du coq correspond à la troisième veille qui va de minuit à 3 heures. Et le matin était de 3 heures à 6 heures. La parabole du propriétaire absent est particulière à l'évangile selon Marc. Elle enseigne, une fois encore, le besoin d'une vigilance constante des disciples qui doivent rester fidèles à leur Seigneur coûte que coûte. Cette responsabilité incombe aussi à tous les chrétiens authentiques de tous les temps, quelle que soit leur génération. Parce que le retour du Seigneur est une certitude. Les croyants doivent veiller et œuvrer pour lui avec zèle.